www.asso. À bientôt.
Radio G.
Il est 19h sur le 101.5 FM de Radio G et c'est l'heure de la caisse de Seb. Au programme de ce soir, du polar, des gardiens de la galaxie, de la musique et de la bouffe. Mais tout d'abord, générique. Pourquoi il part pas moins générique? Voilà.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans la case de Seb, la seule émission qui va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images du comics, de la BD franco-belge et du manga par le truchement des ondes radiophoniques. Ce soir, je suis en grande compagnie puisque j'ai à côté de moi, Luc. Tu vas bien?
Eh ben, écoute, bonjour, bonsoir, Seb. Je suis ravi et je vois que tu m'as donné du travail. Qu'est-ce que c'est que ça?
Eh ben, vous allez voir, j'ai eu beaucoup de temps pour bosser. En fait, je prenais ombrage un petit peu des chroniques que vous faisiez parce que je trouvais que les miennes n'étaient pas assez travaillées, donc du coup, j'ai bossé.
Ah, bah dis donc, c'est une bonne nouvelle. Depuis combien de temps tu animes l'émission?
Trop longtemps, je me suis reposé sur mes lauriers trop longtemps.
Donc, 10 ans de non-préparation de chroniques.
Non, c'est pas vrai, pas que 10 ans. Je suis aussi accompagné de Richard. Ça va, Richard?
Salut, Seb. Je disais oui de la tête, mais c'est pas vrai. Enfin,
non, c'est pas très radiophonique de faire oui de la tête. Et je suis d'ailleurs, bon anniversaire en retard, Richard.
Oui, c'était mon anniv, c'était samedi. Je me suis mis dans le mal, mais c'était bien.
N'hésitez
oui,
pas.
Quel cadeau tu as eu, Hellfire Club.
Ouais, magnifique. J'ai un t-shirt Stranger Things, Hellfire Club. Bon, ça aurait été mieux dans la voix du scénarium, mais.
Bah, t'inquiète, ça va le faire. N'hésitez pas, si vous voulez souhaiter un bon anniversaire à Richard, à le faire dans le chat de la radio. On essaiera de lui transmettre les petits messages. Voilà. Puis si vous avez autre chose à dire dans le chat, n'hésitez pas. Et on a aussi Nolwenn qui est avec nous. Ça va, Nolwenn?
Bonsoir, ça va et vous?
Bah ouais, tranquillou. Eh ben écoutez, on est chaud patate, on est chaud bouillant. Eh ben qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je commence pas par une petite chronique que j'ai potassée et puis après vous allez voir, on pourra se répartir un peu plus les tâches.
Suivant ta formulation, donc tu ne commences pas.
Si.
Est-ce que je commence pas donc
Ah oui, double négation.
Ah ouais, non.
Bon,
mais
allez, vas-y, commence, vas-y.
Et on est lundi là, doucement. Hein.
Et lundi, non, mais c'est vous, ça va le faire. Alors, j'espère que ça va être plutôt pas mal. Eh bien écoutez, ce soir j'ai le plaisir de recevoir un invité de renommée internationale pour parler de cet album jeunesse. Il s'agit de Groot.
I am Groot.
Oui, bienvenue sur le 101.5 de Radio G Groot. Dans cet album, publié chez Panini Comics, Groot est accompagné de Rocket et va partir à la recherche de Star-Lord.
I am Groot.
Oui, ok, effectivement il faut que je redonne un petit peu de contexte. Alors déjà, chers auditeurs, est-ce que vous connaissez les Gardiens de la Galaxie?
Moi, je connais pas, non.
Eh ben, sans rentrer.
Non, je connais pas. Quoi? Oh, merde, alors j'ai le droit de pas connaître.
Oh. Sans rentrer dans le détail, c'est un groupe de héros de l'univers Marvel, de genre galactique. En gros, leur champ d'action, c'est plus l'espace que la planète Terre, à contrario des Avengers, par exemple. L'équipe est composée de.
I'm Groot.
Oui, de Groot, bien sûr, mais aussi de Rocket Raccoon, une sorte de raton laveur génétiquement modifié, de Gamora, une extraterrestre verte, de Mantis, un extraterrestre télépathe, de Drax, un humain modifié ultra bourrin, et de... Mais j'allais le dire, Groot. Et de Star-Lord, un humain qui est le leader de l'équipe. Alors, l'histoire commence dans une pizzeria où Groot et Rocket déjeunent tout en discutant.
I am Groot.
je tiens à signaler que c'est Groot qui paye sous la pression de Rocket. Bref, ils sont tranquillement en train de manger une pizza lorsque Rocket reçoit sur son téléphone une notification plutôt inquiétante. Star-Lord a été enlevé et ses ravisseurs demandent une rançon. Eh bien, sans trop hésiter, nos deux compères décident d'aller secourir leur camarade.
I am Groot.
Oui, comme tu dis, l'affaire n'est pas si simple, puisque nombreux sont ceux qui peuvent en vouloir à Star-Lord. Mais nos deux compagnons sont plutôt méthodiques et ils vont commencer par interroger les autres gardiens de la galaxie sur d'éventuels indices. Hélas, les autres membres de l'équipe sont plutôt occupés et la piste n'est pas franchement facile à suivre. Entre bagarre avec Thanos, découverte de la Terre... Oui, où tu as effectivement empêché un génocide arboricole, jusqu'à un improbable concours de danse où vous vous êtes particulièrement distingué collégialement. Jusqu'à un dénouement plutôt inattendu. Eh mais non, on spoile pas les auditeurs, voyons. Ils n'accepteront pas l'album, enfin ils n'achèteront pas l'album s'ils connaissent déjà la fin. Parle plutôt du dessin. Voilà. Eh bien, comme tu le soulignes, l'album est destiné à un public plutôt jeunesse et par conséquent, le dessin dans un style adapté, de type cartoon, avec des exagérations sur les personnages. Au niveau couleur, ça claque, c'est pop, c'est flashy, ça va ravir les mirettes des gamins. Oui, j'y viens. De la même manière et pour les mêmes raisons, l'album fait part belle à l'humour tout en gardant une bonne part d'action. Ce qui rend la lecture plutôt rapide, distrayante, un peu comme un film Marvel. Non, c'est pas un reproche. Enfin, pas tout à fait. Alors, il est sûr que l'album saura séduire les plus jeunes et peut-être rebuter les plus grands. Oh, le langage, Groot. On a des enfants qui écoutent. Mais bien entendu, si vous avez envie de lire un ouvrage hyper cérébral, celui-ci n'est pas pour vous. Oui, j'ai dit pareil que toi, mais sans les gros mots. Tu donnes les références ? Ok, bon, je traduis. C'est Rocket et Groot à la recherche de Star-Lord, c'est d'Amanda Dibert et de Cam Kendall, et c'est publié chez Panini Comics.
I'm Groot.
Ben oui, merci Groot d'être venu, et reviens quand tu veux.
Waouh, bravo, bravo Seb.
J'ai pas compris, il s'appelle comment le...
I'm Groot.
Ah oui. Non.
Il s'appelle Groot.
Merci. Alors, pas entendu.
J'ai regardé la BD pendant que tu faisais ta chronique, et je suis un petit peu déçu par rapport au traducteur. Parce que bah, c'est pas français.
Ouais.
C'est italien de ce que j'ai vu ?
Oui, c'est d'origine. Souvent, les comics comme ça peuvent être d'origine italienne.
Apparemment, les traducteurs n'ont pas vu les films, puisque normalement, la traduction de I am Groot en français, c'est Je s'appelle Groot. Et là, il y a Je suis Groot.
Alors, en fait, la trad, elle peut se faire de manière différente, et je crois que c'est uniformisé chez Panini sur Je suis Groot.
Ah ouais ?
Parce que ils sont restés. Parce que c'est I am Groot dans la langue de Shakespeare, ouais, comme on a pu, ouais, l'entendre plusieurs fois. Mm-hmm. Et I am Groot, bah, c'est Je suis Groot. Mais ouais, je n'ai pas creusé, en fait.
Dans l'idée, c'est dommage de ne pas avoir gardé ce qui a été déjà fait, tu vois.
Ben,
parce qu'il s'appuie sur le fait que tu connais les personnages.
Oui, mais que tu connais quel personnage ? Ceux du cinéma ou ceux du bouquin ? Et c'est là la subtilité.
Eh oui. Ok.
Bon.
Ok, ok. Bah. Le dessin est trop cool.
Ouais, je trouve ça, c'est cartoon, c'est pop, c'est fun, c'est cool. Je vois, voilà. Tu me rends la BD. Voilà, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On se fait une pause musicale tout de suite là maintenant ou
Oui, Laurie.
Non,
ah
pas,
oui,
pas Laurie.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu.
Non, je vais vous mettre...
Ta meilleure amie.
Je vais vous mettre...
Maguion 3.
Mais non, ça c'est dans les voies du scénarium.
Te laisse pas,
personne
des...
ne m'a
pas déborder, Seb.
Si tu veux, dans ma chronique, j'ai la place pour de la musique.
Et ben on va commencer pour une vraie musique complète.
Ah ouais, de 4 minutes et tout ça.
Et ben on va faire comme ça alors.
Par contre, faut que tu la cherches. Tu cherches.
Ah ben oui, non mais d'accord.
Et moi je.
En fait, quand moi j'ai vu ta chronique, je me suis dit vachement bien. Il a tout préparé avec la musique et tout.
Il y a juste les musiques que j'ai pas. Il y a la première et la dernière.
Eh ben écoute, je crois que la première, je l'ai déjà, c'est celle-là. Hop. Et puis la deuxième, c'est quoi le nom ?
La deuxième, ah ouais.
Attends, on va surprendre.
Tu mets Outro et Dragon. Et tu vas voir, en fait, c'est en japonais, comme ça.
Bien.
Eh ben écoute,
je vais te piquer le câble.
Vas-y, pique-moi le câble. coquillou. Mais attends,
ouh,
je trouve...
ça fait du bien.
Ah, ça gratouille. Le fond de l'oreille. Eh ben, écoute, on va commencer comme ça, tu vas voir, regarde. C'est pas le soir où tu as décidé de nous parler du coup de Glouton et Dragon, la série animée ?
Si.
Eh ben, c'est parti.
Oui, Seb. C'est enfin aujourd'hui que les planètes se sont alignées. Au moins trois, puisque j'ai pu lire le premier tome et voir les trois premiers épisodes de Glouton et Dragon pour pouvoir les comparer. Je vous laisse écouter l'intro musicale. On se retrouve juste après dans 4 minutes.
Hop.
L'histoire commence dans un paisible petit village.
On est de retour.
Un beau jour, dans un grondement sourd, le mur d'une crypte s'est effondré et la silhouette d'un homme est apparue. Il se présenta comme le roi d'une cité d'or, disparue il y a plus de 1000 ans. Ce royaume était connu pour ses richesses, mais un sorcier maléfique s'en était emparé et les avait fait disparaître 6 pieds sous terre.
Mais cet homme qui avait amassé toutes les richesses du monde indiqua « J'offre mon royaume à quiconque saura vaincre ce sorcier ». Ces mots prononcés, l'homme redevint poussière et disparut. Tous se lancèrent dans la crypte afin de débusquer ce sorcier dans l'espoir de mettre la main sur ce fameux trésor. Le monde entier connut alors une grande vague de groupes d'aventuriers qui releva le défi de gloutons et dragons. C'est ainsi que commence l'animé.
Ça, c'est l'intro de One Piece.
Ah, oui.
Si je te confie des trucs et que tu fais pas les bons, c'est pas bon.
Ah, on aurait pu kiffer un peu quand même. Bon, je vois que t'es pressé de découvrir ma chronique. Oui. Oui, je pense que l'intro de cet animé qu'on vient d'entendre et de One Piece font lien, puisque c'est une référence, c'est un clin d'œil, j'ai l'impression. Mais Glouton et Dragon part sur un autre point de narration, puisque nous retrouvons une équipe de 6 aventuriers épuisés, affamé sur le déclin, affrontant directement un terrible dragon rouge.
Allez, tenez bon ! Une fois passé ce dragon, on y sera presque ! On y va !
On est plus que prêts. Rien ne peut nous faire échouer. En revanche, on a le ventre vide. Tout le monde manque d'énergie. En chemin, on a perdu une journée à cause d'une erreur sur la carte. On s'est fait piéger et on a épuisé 3 jours de nourriture. J'aurais voulu faire autrement. Mais après ce dragon, je crois qu'on devra rebrousser chemin.
Attention !
Qu'est-ce qui lui arrive ? Elle est sous l'emprise d'un maléfice ? C'est pas vrai. C'est ici que tout va s'arrêter. Dans ce fichu donjon.
La défaite est cuisante, j'ai envie de dire, puisque Laios, le chef du groupe, voit sa sœur se faire avaler par ce monstre surpuissant. Dans une dernière action, Faline, comme vous venez d'entendre, parvient à téléporter ses amis à la sortie avant de se faire avaler. À son réveil, Laios doit admettre la défaite. Faline est perdue, elle n'a pas pu se téléporter car elle était enfermée dans la gueule du dragon. L'équipe a perdu tous ses équipements sur place et par-dessus le marché, 2 camarades, une barbare et un samouraï, prennent la décision de démissionner et quitter le groupe.
Bon, si on vend notre matériel actuel, on pourrait en tirer un petit pécule. Et en prenant des choses moins chères, on pourrait racheter des armes, de la nourriture, des médicaments et embaucher de nouvelles recrues. Ça va suffire ?
Ça m'étonnerait.
Pendant qu'on tergiverse sur cette histoire d'argent, ma sœur se fait digérer. Il y a des gens qui sont ressuscités après avoir été hachés menus, non ? Donc c'est possible aussi de survivre à une digestion.
Je n'en ai jamais entendu parler.
Laios se remet en question et décide d'aller seul sauver sa sœur. Il ne veut plus mettre ses amis en danger, mais ceux-ci décident de le suivre quand même.
Je m'en fiche, je viens avec toi. Moi aussi je tiens énormément à Faline. Et je ferai tout pour la retrouver vivante. Je ne serai pas un boulet pour toi. Au contraire, ma magie est très puissante et tu en auras besoin.
Et moi aussi, j'ai des talents qui te seront utiles. Sans moi, qui pourra désamorcer les pièges et ouvrir toutes les portes ?
Vous êtes sérieux ? Vous êtes vraiment certain de vouloir me suivre dans cette aventure ? Peu importe ce qu'il vous en coûtera ?
Oui.
On se nourrira de ce qu'on pourra trouver dans le donjon. Ça pullule de monstres à l'intérieur. Ça veut dire qu'il doit bien exister un genre d'écosystème là-dedans. S'il y a des carnivores, c'est qu'il y a aussi des herbivores pour les nourrir. Et ces herbivores mangent des plantes qui, elles, ont besoin d'eau, de lumière et de terre pour pousser. Donc, il y a forcément de quoi manger aussi pour nous, les humains.
Du coup, tu veux dire qu'on va devoir manger des monstres ?
Oui, exactement. Revois toutes les aventures qu'on a vécues. Quand on y pense, on a croisé des choses appétissantes.
Non, j'en mangerai pas. C'est hors de question.
Ça va, il y a plein de gens qui chassent les monstres pour les manger.
Oui, les criminels qui n'ont pas le droit de remonter à la surface. Et figure-toi qu'ils sont régulièrement atteints de sévères intoxications alimentaires.
Tu as dit tout à l'heure que tu ferais tout pour sauver Faline.
Oui, bah tout sauf manger des monstres.
Après un premier test avec les deux premières créatures qu'ils vont croiser, un champignon humanoïde et un scorpion géant, Laios, étant apparemment aussi fan que Nolwenn de la biologie des monstres, va sortir un livre qu'il gardait depuis longtemps pour tester une recette à base de monstres. Mais le résultat n'est pas très convaincant. C'est alors qu'il rencontre Senshi, un guerrier nain. Senshi a de très bonnes connaissances du donjon et des monstres, mais c'est surtout un expert en cuisine de monstres. D'ailleurs, il rêve de cuisiner et goûter pour la première fois de sa vie un dragon rouge. Comme quoi les choses font bien. C'est ainsi qu'il décida de rejoindre le groupe de Laios. Cette fiction est pour le moins originale. Normalement, je suis pas très fan des animés de cuisine et clairement, là, cette fiction, elle n'est pas là pour jouer sur l'aspect des « Oh, c'est merveilleux, il a fait une omelette qui me donne la sensation de jouissance, oh là là !»
Ah wow.
Que fait très bien, voire même trop bien Food Wars, si vous voulez mon avis. Non, Glouton et Dragon jouent sur le fait que ça se passe dans un donjon et surtout qu'il tord certains aspects, mais aussi avec les caractéristiques des monstres pour nourrir son histoire, ce qui me donne personnellement envie de connaître la suite. Tiens, par exemple, sais-tu, Nolwenn, que les blobs ou les mucus ont des organes vitaux ?
Un mucus ! Oh non, il me recouvre entièrement la tête ! Je vais pas pouvoir prononcer mon sortilège ! J'avais oublié, je suis déjà morte une fois à cause d'un mucus.
Ça va ?
Oui, je crois, mais j'ai l'impression que j'en ai plein le nez.
Prends ça pour te moucher.
Vous avez abattu un mucus avec un simple couteau ?
Quand on sait où sont les organes, c'est facile. On dirait qu'il n'y a pas de structure, mais en réalité, ce n'est pas très différent d'un humain. Voilà comment ces organes sont disposés. Si on compare avec un humain, c'est comme un gros estomac à l'envers qui englobe la tête et les autres organes. Il repère ses proies grâce à leur respiration et ensuite il attaque. Donc plus on crie et plus on gesticule, moins on a de chances de s'en sortir.
Ah. Ou bien même qu'il y a des techniques plus ou moins élaborées pour cueillir des mandragores.
Ah, c'est pour moi ! Je sais comment on récolte les mandragores ! Laissez-moi, je m'en charge, je peux le faire ! Les mandragores sont essentiels pour la magie et les potions. En d'autres termes, c'est ma spécialité. Alors faites ce que je vous dis et tout se passera bien, ok ? Quand on déterre une mandragore, elle pousse un hurlement. Si on l'entend, on peut devenir fou et même mourir. Si ça nous arrive, ce sera fini pour notre groupe. Et on n'aura plus aucune chance de sauver Faline. Alors pour éviter ça, d'abord, il faut un chien bien dressé et une laisse solide.
Un chien ?
Il n'y a plus qu'à attacher la laisse à la mandragore, à s'éloigner un peu et à appeler le chien. Il va venir en courant, ce qui va faire sortir la mandragore.
Et qu'est-ce qui arrive au chien ?
Bah, il meurt.
Mais c'est horrible ! Et puis, de toute façon, comment tu veux qu'on trouve un chien dans un donjon ?
Hein ?
En plus, un chien par mandragore, ça me semble pas très rentable comme méthode.
Mais c'est ce qu'on a appris à l'école !
On peut pas juste utiliser une très longue corde ?
Hein ?
Une corde assez longue pour qu'on n'entende pas la mandragore ? Comme ça, pas besoin de chien.
Non, ça peut pas être aussi simple ! Il doit y avoir une histoire de force de traction ou...
Quel cri terrifiant!
C'était juste Marcille.
Si on leur coupe la tête avant qu'elle crie, ça règle le problème.
Oui, logique.
Cette série, en plus d'être drôle, est très bien pensée. Elle a une certaine cohérence. J'ai même lu dans une critique sur internet que ça fait un peu penser au donjon d'Albuck. Le fait que, bah, pour le coup, ça dénature un peu ce qu'on voit normalement dans les donjons et tout ça. Par exemple, quand Laios prépare son champignon pour sa recette, il s'aperçoit qu'il est beaucoup plus facile de le couper dans la hauteur. C'est une info qui peut changer beaucoup de choses lors d'un combat. Et je rejoins un avis que j'ai vu sur le net, donc bah, Malbuck, tout ça, c'est drôle, il y a des techniques, voilà.
Ok, ça a l'air bien, mais Richard, qu'est-ce que toi t'en as pensé de l'adaptation Netflix ?
Eh bien, pour te répondre, Seb, l'adaptation animée est parfaite à mes yeux. Je peux juste comparer les trois premiers épisodes qui suivent au chapitre près le tome 1. C'est sûrement une des meilleures adaptations que j'ai vues. Il manque quelques petites infos que le manga nous donne en plus, mais rien de bien grave. Mais vraiment, cette adaptation vaut le coup, et la VF, pour moi, est parfaite. Dans les protagonistes, vous avez pu entendre Jim Redler, qui est la voix française de Shia LaBeouf, Marie Nonnenmacher, désolé pour le nom, qui est la voix de Lucy dans Fairy Tales, Thomas Hagol qui est la voix de Seamus dans Harry Potter, et en tout dernier Gérard Surug qui fait la voix de Rubilax dans Wakfu.
Et tu es en train de me dire que Netflix a pour une fois fait une bonne adaptation ?
Eh ben, pas totalement, Seb. Netflix n'est que le diffuseur mondial. L'animation est due au fameux studio Trigger, à qui on doit les animés Kill la Kill, Little Witch Academia ou encore Darling in the Franxx. Par contre, la VF, oui, c'est complètement Netflix. Un tableau après le générique nous indique qu'il a été doublé par le service Netflix Dubbing et surtout dirigé par Grégory Lesnay, un comédien de doublage connu pour avoir donné sa voix pour Shinra dans Fire Force, Conny dans L'Attaque des Titans, entre autres. Pour finir cette chronique, je tiens à te remercier, Seb, parce que j'adore cette histoire, l'univers qui en dégage et tout ça, et je vais sûrement continuer à lire les deux tomes restants que tu m'as confiés, bien que je t'avouerai que je suis un petit peu réticent à toucher la couverture, c'est très rigide, j'aime pas ça, ça fait une sensation de bois, bref. Et je vais sûrement regarder la série animée qui est encore plus cool. Un grand merci à toi, je suis complètement chaud bouillant, si j'ose dire, pour suivre cette aventure pour la case de Seb. Merci encore, Seb.
Et bien de rien. On se met le générique pour finir ?
Ouais.
Générique de fin. Sur Glouton et Dragon, vous êtes toujours sur le 101.5 de Radio G. Moi je propose que ce soit. Déjà, merci Richard. C'était une belle chronique, moi j'ai bien kiffé.
Quelle super production! Production!
Juste pris des extraits encore.
Ce qui est bien, c'est qu'on va arriver à se tirer par le haut et qu'on va faire les meilleures émissions. On va dépasser France Inter en termes d'audience et tout.
Bien sûr.
Moi je suis. C'est très bien, hein, Luc. Qu'est-ce que t'en penses?
Ah mais oui, ou dépasser France Culture avec son émission Mauvais Genre.
Eh bien, mais ouais, hein, carrément. On va faire le Masque et la Plume 2. On va être mieux que ça encore.
Le Masque et la Plume de Seb.
Oh. Là, c'est bon, on pourrait faire une émission costumée.
Non, c'est pas très radiophonique.
J'ai des images de Seb avec un masque et une plume. Je vous laisse imaginer où est la plume.
T'étais à cette soirée-là, toi? Pardon. Revenons à nos moutons. On va plomber un peu l'ambiance avec Luc qui va nous parler encore une fois de Polar.
Oui, bien sûr. Ouais.
Allez, on est parti. Générique.
Bulle de noir. Quand le polar s'écrit en BD.
Et oui, Seb, c'est l'heure de la chronique polar. Seb et Richard et Nolwenn, bien sûr, qu'il faut intégrer dans cette équipe. Nolwenn qui a dépassé sa période de stage, maintenant qui est titulaire dans l'émission. On attend avec impatience sa première production. Cette petite chronique s'aventure dans des territoires que je n'avais pas imaginé lorsque je l'ai pensé. Après le manga, que je suis sûr que vous en souvenez, je vous ai bien surpris il y a 15 jours. Bienvenue aujourd'hui dans l'univers merveilleux des comics. Et quoi de mieux pour aborder ce genre, parce qu'il s'agit bien d'un genre à lui tout seul, quoi de mieux donc que de vous parler de la référence cardinale, celle qui a marqué notre imaginaire d'enfant. Je parlais de Batman, né si vous ne le saviez pas, le 30 mars 1939.
Eh bien, décidément, Luc, tu n'arrêteras pas de nous surprendre.
Ben oui, c'est pour utiliser une expression que j'ai en horreur, il faut savoir sortir de sa zone de confort. Bon, je ne suis pas allé exhumer un vieil album, une des réalisations de ses créateurs Bob Kane et Bill Finger. Non, j'ai retenu une version moderne, parue en 2022 aux États-Unis et traduite en 2023 par les éditions Urban Comics. Le premier épisode de la série, Batman One Bad Day, sous-titré Le Sphinx. Ça commence comme ça, Jonathan Henry Oates vient de finir sa journée. Il est au téléphone avec un collègue, il lui dit qu'il rentre plus tôt chez lui pour récupérer sa fille, âgée de 11 ans, à son entraînement de foot. Il sort du bâtiment, un homme apparaît derrière lui, sort un revolver et abat Jonathan. L'homme se tourne vers la caméra de vidéosurveillance et montre une petite carte avec la silhouette d'une chauve-souris. À l'enterrement de Jonathan Henry Oates, un homme, à l'arrière, se tient debout, sous la pluie, Bruce Wayne. La veuve le reconnaît, ils échangent quelques mots jusqu'à la sortie du cimetière. Changement de décor, on est dans une institution scolaire. Le jeune Edward est convoqué dans le bureau du directeur. En réalité, c'est son père. Il est violemment admonesté pour ses mauvais résultats. Il n'est que troisième avec une note de 92 sur 100. Et cette mauvaise note est la conséquence d'une devinette stupide proposée en fin de devoir par le professeur Gordon Yelim. Mais c'est loin de convaincre son père qui n'a qu'une seule réaction, lui infliger une sévère punition corporelle de violents coups d'un épais livre sur l'arrière-train. Changement de décor à nouveau, un homme est suspendu par les pieds et plongé dans un bassin peuplé de requins. Il dit connaître quelqu'un, un criminel, qui utilise des devinettes avant d'assassiner ses victimes. Qui l'interroge de la sorte ? Un seul indice, une main gantée de noir, un morceau de cape dentelée. Changement de décor encore. On est dans une prison, dans une cellule, un prisonnier, Weston Burt, se suicide à l'aide d'une fourchette. Dans la cellule voisine, un prisonnier au nom étrange, Edward Nigma.
Ok, ça a l'air plutôt dense comme histoire.
Oui, et ça peut paraître mystérieux présenté comme ça, mais ce démarrage contient tous les éléments du scénario sulfureux et diablement efficace de Tom King, qui a écrit et réalisé « Sheriff of Babylon » ou « Mr. Miracle » par exemple. Progressivement, le focus va se resserrer autour du mystérieux Edward Tierney, alias Edward Nigma, ou plutôt Enigma. C'est sombre, diablement suffocant, et le dessin et les couleurs de Mitch Gerhardt, illustrateur des scénarios de Tom King, sont à l'avenant du vert, de l'orange, des coulures, des giclures de sang, poisseux, tout simplement poisseux. On est très loin de l'école franco-belge et de la ligne claire. Tout comme le manga, le comic is not my cup of tea. Mais en lisant cet opus, j'ai été totalement percuté en découvrant une forme narrative et un graphisme très loin du simplisme et de la puérilité dans lesquels j'avais rangé le genre.
Tu oses parler de puérilité ?
Que veux-tu ? Ben, les clichés ont la vie dure. J'ai donc dû me documenter, j'ai découvert que cet univers est habité par des spécialistes et des exégètes hors pair. Ça décortique, ça discutaille, ça critique ferme, c'est du sérieux. C'est Urban Comics qui édite la série One Bad Day, 8 volumes qui chacun racontent le jour où les adversaires de Batman ont basculé. Le Sphinx est le premier de la série, suivent Double Face, le Pingouin, Mr. Freeze, Bane, Catwoman, Ra's al Ghul et Gueule d'Argile. Tous les avis que j'ai pu lire sont unanimes. Ce premier volume est exceptionnel, pas tant par l'intrigue que par le graphisme qui pourrait nous ramener au magnifique Dark Knight Rise de Christopher Nolan. Dans certaines vignettes, je pense à celle pleine page où l'on voit la Batmobile sur une route sinueuse quitter le nid d'aigle où réside Batman, on entend même parfois le générique de la série animée. Pour ce qui me concerne, en prenant en considération que je ne suis pas un spécialiste et que mon degré de culture en la matière est proche de zéro, j'ai lu cet album pour ce qu'il est, sans référence, sans filtre, sans a priori. À la fin, au niveau de tout l'album, m'a pris de court, dans un dialogue très étrange. La voix de Batman qui se flagelle d'être miséricordieux, trop miséricordieux, et qu'en conséquence, ses adversaires en profitent trop, et tout particulièrement ce mystérieux Sphinx. Batman en arrive à la conclusion qu'il lui faut dépasser cette conscience morale s'il veut réellement éradiquer le mal de Gotham City. Et même si cette fin n'est pas explicite et laisse la place au lecteur de tout imaginer, l'une des dernières vignettes représente le Sphinx avec derrière lui la silhouette de Batman et les quatre vignettes suivantes sont totalement noires, brillantissimes. L'album s'intitule le Batman One Bad Day, le Sphinx. Il est le premier volume d'une série de 8 aventures du célèbre Chevalier Noir. C'est publié par les éditions Urban Comics et l'ensemble peut être acheté individuellement ou dans un coffret complet.
Eh ben, top.
Oui, c'est vraiment top. C'est brillantissime. C'est un album extraordinaire.
On sent ton enthousiasme, pardon, je ne sais même plus parler, dans cette chronique et que tu as vraiment kiffé.
Oui, totalement. Totalement. La fin est exemplaire puisque, effectivement, Batman nous confronte à une situation, à un dilemme. Moi, je pense qu'il résout le dilemme à la fin et il résout le dilemme pas forcément comme Batman devrait le résoudre.
Eh ben, comme quoi. Ça me fait penser à une petite blague que j'ai vue il y a pas très longtemps, c'est que Batman ne tue pas. Batman n'utilise pas d'armes à feu. Par contre, toutes ces bagnoles, elles sont équipées de lance-roquettes, de mitrailleuses dans tous les sens. Ce qui est plutôt paradoxal, on va dire, sur le personnage.
Tout à fait. C'est lui qui plonge le bonhomme dans le bassin de requins. Il n'est pas aveugle, Batman, hein ?
Non.
Non, la justice n'est pas aveugle. Batman non plus. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vous propose de faire une petite pause musicale là maintenant tout de suite et puis on se retrouve tout de suite après sur le 101.5 de Radio G. Là je fais un petit plaisir à ma fille, je lui mets Anno avec Onegay Smiley. Vous devez voir, c'est rigolo, c'est mignon. retour sur le 101.5 de Radio G. C'est toujours la case de Seb. On parle toujours de BD, de 9e art, hein, dont tout ce... Donc, voilà. Puis on parle d'autre chose pendant le générique.
Ouais, on parle d'oreiller. En 9, on parle d'oreiller et de films d'horreur qui se passent dans le Schnorr.
Dans le Schnorr. Je vous propose, moi, de vous faire une petite chronique. J'en ai travaillé, j'ai beaucoup trop travaillé.
Ouais, t'as beaucoup travaillé, puis tu sens qu'il y a du niveau maintenant.
Il y a du niveau,
il y a du challenge,
il y a du niveau, il faut y aller, il faut mettre quelque chose.
Bah oui, faut y aller maintenant.
C'est pas un manga, ça, c'est un dictionnaire.
C'est. tu verras. Je vous laisse quelques instants.
Oh putain. T'as ramené son piano, Seb?
Ouais.
Qui est-ce que tu joues bien?
Putain.
Et, ouais.
Et dans le studio, il l'a fait rentrer dans le studio.
C'est fou.
On en reparlera juste après.
Il parle en même temps. Et...
Je vais vous parler de Nodame Cantabile, qui est publié aux éditions Pika dans la collection Pika Masterpiece. Richard, vu que tu m'as piqué le... Tu veux bien que tu donnes le nom de l'auteur, s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Tomoko Ninomiya.
Voilà. Lorsqu'on a fait le petit unboxing il y a 15 jours, Luc, tu soulignais que le nom t'évoquait quelque chose.
Bah oui, ça me fait penser bien évidemment au Moderato Cantabile de Marguerite Duras.
En effet, le nom est similaire et les deux titres empruntent au langage de la musique. Alors, je ne connais pas le sujet du roman de Marguerite Duras, je sais simplement que Moderato Cantabile, c'est une indication sur le tempo qui doit être modéré, Moderato, et chantant, Cantabile. Pour le manga de ce jour, on pourrait vulgairement dire que ça va parler d'un tempo chantant, donc cantabile, sur un rythme de nodame.
Et c'est quoi un nodame comme indication?
Eh ben, nodame, ce n'est pas une indication musicale, ni même le personnage principal de l'histoire, mais celui autour duquel tourne toute l'intrigue de ce manga. D'ailleurs, ce manga est de Tomoko Ninomiya, une autrice réputée pour ses romans de type josei.
Là, t'arrêtes, parce que il faut que t'expliques un peu. Je n'y connais pas grand-chose en manga, et ça, vous le savez. J'ai beau y faire une chronique, je n'y connais rien. Alors, c'est quoi?
Alors, pas de souci, Luc. J'avoue que j'étais pas familier de ce terme en écrivant cette chronique. Le josei, c'est littéralement un manga pour femmes. Alors, on pourrait penser que c'est comme un shoujo du manga destiné aux jeunes filles, mais là, c'est plutôt le public de femmes adultes qui est visé.
Ok, mais ça parle de quoi? Par de piano?
Eh ben, j'y viens. L'histoire, c'est celle de Shinichi Chiaki, un jeune garçon à l'université de musique où il excelle. En effet, c'est un excellent pianiste, mais quand on est fils d'un pianiste renommé, de renommée internationale, bah, ça aide forcément. Par contre, je préfère le préciser, Shinichi est conscient de son talent, ce qui le rend arrogant, désagréable avec ses profs et insultant et hautain avec les autres élèves. Un mec dont on n'a franchement pas envie de suivre les aventures. Mais voilà, Shinichi a un rêve. Il souhaite partir en Europe, rejoindre un chef d'orchestre qui l'adule pour étudier la direction d'orchestre. La fausse note, si je peux me permettre le jeu de mots, c'est que le jeune homme a une peur panique de l'avion. Difficile donc de rejoindre l'Europe depuis le Japon.
Inonami?
Eh ben j'y arrive. Un soir de désespoir, Shinichi s'endort dans le couloir devant chez lui, pour se réveiller le lendemain sur le sol d'un appartement en bazar, et je pèse mes mots, avec une jeune fille qui joue du piano, à queue, au milieu de ce capharnaüm. Cette jeune fille, c'est Megumi Noda, surnommée Nodame, qui se trouve également être la voisine de Shinichi.
Allez, ça a fini en romance, j'adore les romances, vas-y.
Alors, pas tout à fait, puisque notre protagoniste principal la trouve nunuche, bordélique, mal organisée, et qu'en plus elle ne joue pas si bien du piano et ne sait absolument pas lire une partition. De son côté, Nodame est plutôt du genre stalker, crampon, envahissante, et elle sait comment obtenir de Shinichi tout ce dont elle a besoin sans forcément avoir besoin de le demander. Très vite, le jeune garçon se retrouve à ranger le logement de Nodame et à lui préparer à manger quasiment tous les soirs, bien malgré lui. Mais voilà, les leçons de piano qu'il va avoir en commun avec elle vont l'obliger à se rendre compte de certains de ses points forts qu'il a tendance à ignorer, à savoir accompagner et mettre son propre talent au service des autres pour les aider à élever leurs talents musicaux vers des sommets. Alors j'en profite pour mentionner que le morceau qui se joue en fond depuis tout à l'heure, c'est la sonate pour deux pianos de Mozart, et c'est le premier morceau que Nodame et Shinichi vont jouer ensemble. Parce que oui, au fil des pages, Shinichi va avoir besoin de rencontrer d'autres musiciens, haut en couleur et en caractère, pour s'affirmer.
Si j'essaye de comprendre, et je pense avoir compris, je suppose que l'album vaut le coup, mais Est-ce que tu peux nous dire pourquoi il vaut le coup cet album ?
Eh bien parce qu'on s'attache à ces deux personnages. Malgré son fichu caractère, voir Shinichi évoluer vers les autres, c'est vraiment plaisant. Il s'ouvre, passe de quelqu'un de détestable à quelqu'un de conscient des autres, et se rend compte que l'échange est sans doute la clé de voûte de son but ultime, devenir chef d'orchestre. Et puis Nodame, c'est son caractère lunaire qui impressionne. Elle est de son côté ultra, voire beaucoup trop sociable, quitte à en devenir envahissante. Son côté ultra spontané crée souvent des situations de malaise chez les autres, alors que elle le percute absolument pas. Et puis elle a ce côté frais des héroïnes innocentes et maladroites que l'on aime, malgré tout l'envie de leur mettre des baffes. Pardon.
Et donc, il y a quelque chose de concret? Ils finissent en couple ou
Alors, pour le moment, je sais pas. Mais c'est la direction vers laquelle ils vont sans doute aller, en effet. Alors, j'ai pas parlé du dessin, hein. J'ai des transitions un peu cheloues d'ailleurs. Mais on retrouve les traits assez fins et élancés des mangas à destination des filles ou femmes. Mais on y ajoute pas mal de trames les trames, c'est les effets qu'on retrouve beaucoup dans les mangas de sport. Parce qu'on va pas l'oublier, ça reste un manga dont le sujet principal, c'est la musique. Et on y apprend beaucoup de choses, ce qui est vraiment un plus non négligeable. Donc si vous voulez une histoire à la fois fraîche, avec un peu de romance, et apprendre des trucs sur la musique, bah, ce manga il est fait pour vous. Alors, je reprécise, hein, il s'agit d'une édition qui est dans la collection Pika Masterpiece. Ce sont donc des grands formats, et la série comportera 13 tomes, ce qui devrait remplir une belle étagère.
Ouais, surtout que le tome vraiment fait aller la taille de 3 mangas. Trois mangas classiques, j'ai envie de dire.
Ouais, j'ai plus le nombre de pages.
13 comme ça.
13 comme ça, ça fait un beau morceau.
Ouais.
Bah, ça s'appelle Tabouret pour piano, hein.
Ouais. C'est clair.
Et il se termine quand même ce volume-là par une rencontre avec l'immense Jean-Christophe Spinozzi, qui dirige l'ensemble Mateus, qui est un ensemble magnifique de musique classique, enfin en tout cas que moi j'adore, et je trouve que c'est vachement bien de compléter, d'enrichir en fait les connaissances à ce niveau-là.
Bah, c'est aussi l'avantage en fait des éditions, des formats masterpiece comme ça, c'est que ça permet de pousser un petit peu plus loin. C'est des éditions qui sont souvent augmentées avec des chapitres bonus ou justement des interviews de personnes concernées par les sujets. Là, l'interview elle est vraiment très intéressante puisqu'il parle de la musique et puis de la complexité de gérer un orchestre, ce qui est vraiment génial.
Et si vous avez déjà vu Jean-Christophe Spinozzi diriger, c'est un régal à voir. C'est un fou. Il est pris dans la musique et il dirige de manière très peu académique.
Eh ben, je peux pas juger parce que du
coup. Oui, il est devenu un mème sur Internet, je crois, parce qu'il est vraiment, il est très expressif dans sa façon de jouer. Mmh. Et le Nodame Kondamie, là, dont tu viens de parler, me fait penser à trois choses qui ont rapport avec le piano, ne vous inquiétez pas. La première, c'est que ça me fait penser à un film d'animation, donc on s'éloigne un peu du manga.
Ouais.
Il s'appelle Piano Forest, je crois. Et qui relate de l'histoire d'un jeune garçon qui est extrêmement doué au piano. Parce qu'en fait, il y a les fantômes des plus grands compositeurs des morceaux de piano qui peuvent communiquer avec lui. Seulement, il a une seule chose qu'il ne sait pas faire en jouant du piano, c'est qu'il ne sait pas jouer devant un public. Parce que c'est ce qu'il n'a jamais appris à faire. Et donc, on suit, pendant le film, son aventure et comment il va apprendre ou pas à jouer devant un public. La deuxième chose, c'est que quand tu parlais du morceau qu'ils vont apprendre à jouer ensemble, les deux héros, ça me fait penser à Evangelion. Le moment où Asuka et Shinji doivent apprendre
à danser ensemble
pour battre un ange. Et tu ne vois pas de quoi je parle parce que tu n'as pas vu Evangelion, Richard.
Bon alors Luc, Evangelion, est-ce que tu connais ?
Non.
Bon, alors.
Mais ce n'est pas le sujet.
Ce n'est pas le sujet.
Ça fait un moment que Nolwenn me tanne pour qu'on voit. J'ai vu l'épisode 1 pour te résumer.
La scène de l'ascenseur.
Pour te résumer, en fait, c'est un animé où tu vois pendant 45 minutes des ascenseurs. Voilà.
Oui, mais.
On va s'arrêter là parce que sinon on va y passer une heure.
Les développements que tu donnais là. On est au numéro 2 donc.
Ah non, le troisième, c'est juste que l'appartement en bordel de la fille, c'était ma prof de piano aussi. Elle avait un appartement, tu t'assieds sur les partitions.
Je l'ai pas détaillé dans la chronique, mais Nodame, elle est vraiment à fond sur la musique. Elle ne sait pas lire une partition, puisqu'elle joue quasiment exclusivement à l'oreille. Et son grand talent à elle, c'est de justement mettre des rythmes et des sensibilités. Elle va pas bourriner les touches en forte comme d'autres, elle va apporter plein de nuances que Shinichi n'arrivait pas à mettre, en fait.
Ce qui est compliqué de jouer à l'oreille. En tout cas, pour faire les accords, il vaut mieux utiliser les doigts.
C'est mieux. Je vais mettre un petit jingle.
J'ai tué Luc, je suis content.
Après,
le tu patrou va se remettre à signer du nez.
Maintenant, les grosses têtes, c'est bon.
Allez. Alors, on va faire une dernière petite chronique. Je vais d'abord vous faire un petit blind test. Celle-là, elle sera un petit peu en impro, la chronique. J'ai bossé, mais j'ai pas eu le temps de tout écrire. Donc, à un moment. Allez, un bon point pour celui qui me dit le premier. Qu'est-ce que c'est que ça ? She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire.
Filled with catastrophe. C'est, but she knows she can fly away. Non, c'est pas Laurie.
C'est à ce moment-là, en fait, où je me dis qu'une caméra dans le studio, ça aurait été vraiment bien. J'avais un niveau de concentration qui n'avait jamais été atteint avant.
À quand,
il s'agit
un live
d'Alicia Keys avec Girl on Fire.
Oui, j'avais reconnu le titre, mais j'avais bien senti que c'était pas l'original et que c'était un remix ou
non. Non, c'est l'original.
C'est l'original ?
Ouais.
C'est juste le début.
Ok, bah du coup, je ne connais pas le début.
Et ben voilà.
Ok, d'accord, on a gagné quoi ?
Rien, t'as pas deviné.
D'accord.
Mais du coup, voilà le rapport. Je vais vous parler rapidement de Girl on Fire chez Glenna, de Viner et Williams et Alicia Keys, puisque Alicia Keys a décliné en comics sa chanson.
D'accord.
Alors, j'avoue que quand j'ai lu ça, je me suis dit, attends, ça fait longtemps que je l'ai pas entendu cette chanson, donc j'ai été relire les paroles. Je me suis dit, ok. Alors, j'ai été voir le clip, je me suis dit, ok. Alors, c'est officiellement hein, la BD de la chanson ou du clip, ou je sais pas, mais je suis pas complètement d'accord que c'est une forte inspiration. Bref, je me perds.
Est-ce que Alicia Keys a participé au scénario de ça ?
Oui, oui.
D'accord.
Oui, c'est ça le truc, c'est que elle s'est entourée en fait des deux auteurs de l'album pour pouvoir créer cet album. Non. Alors, on reconnaît certaines thématiques, on reconnaît certains moments du clip où la nana elle commence à ranger des trucs juste en lançant de son doigt. Vous allez voir où je vais en venir. On va expliquer. On suit l'histoire de Lolo Wright, qui est une jeune fille qui vit dans un quartier plutôt défavorisé avec d'autres gens. Donc, il y a plein de personnages qui tournent autour d'elle et de sa vie et de l'école où elle va. Notamment un jeune garçon qui s'appelle Michael. Et elle est plutôt douée. Elle a un papa qui est aimant, une grand-mère qui est aimante, un frère qui l'aime beaucoup, une maman qui a disparu depuis une dizaine d'années, on ne sait pas trop pourquoi au départ. Et puis, elle est plutôt douée à l'école, donc ça lui attire certaines jalousies, mais bon, globalement, ça va. Et puis, un soir, qu'elle va chercher du ketchup à l'épicerie pour sa mamie, pas important, c'est un détail, mais ça donne du contexte, il va s'avérer que cette épicerie s'est fait braquer quelques instants avant par un mec avec une chemise bleue et que le propriétaire de l'épicerie a appelé la police. Et quand elle sort avec son frère est en polo bleu et la police pense que c'est lui qui a braqué l'épicerie, le colle au sol. Et il se passe un truc dans la tête de Lolo ou dans son corps, on ne sait pas trop. Elle est capable de faire léviter et de propulser le policier à une certaine distance. Elle fait ça en utilisant des espèces de losanges jaunes. C'est comme ça que se manifeste visuellement son pouvoir. Mmh. Et elle ne sait pas d'où ça vient. Et pendant ce temps-là, on a de l'autre côté le jeune garçon qui s'appelle Michael, qui lui est plutôt de taille petite, aimerait faire du sport, mais plutôt brimé par ses camarades. Lui, il va plutôt s'orienter vers un homme qu'on appelle Skin, qui est un dealer de drogue et qui favorise certains commerces en leur donnant de la protection. Hein. Sinon, il leur arrive des bricoles.
Ouais.
Voilà. On appelle ça la mafia, quoi.
Complètement.
Une protection.
Voilà. Et du coup, on va suivre ses différents parcours et cette jeune fille qui va essayer de comprendre ce que c'est que ces pouvoirs-là, essayer de remettre Michael sur le droit chemin, tout en nous décrivant en fait une zone défavorisée, mais où les gens essayent tant bien que mal de s'en sortir. Et c'est plutôt agréable en fait à lire. Donc, on retrouve dans cet album-là des thématiques qu'on retrouve chez Alicia Keys dans ses chansons et même dans Girl on Fire, mais la trame globale de la chanson faut tirer un petit peu pour retrouver cette trame-là dedans.
J'espère, je sais pas, la chanson elle fait combien, un quart d'heure, 20 minutes, parce que vu l'épaisseur de l'album, elle doit être longue.
Non, elle doit faire 3 minutes.
Non, elle fait 3 minutes et quelques.
Alors,
hein.
Ça confirme bien ce que tu dis, ils ont étiré.
Ouais. Mais en fait,
c'est combien de pages?
Ah, 160. Attends, je suis à la 160 et c'est pas fini. On est à 216 pages quand même. Hein.
Attends, je te calcule ça.
Pour une chanson de 3 minutes.
Eh ben, moi j'ai trouvé ça bien. Hein. Mais j'ai lu l'album avant de me replonger dans les chansons ou dans le clip. Les chapitres, on a des passages avec du texte. Je me suis dit tiens, ça fait référence aux paroles. Alors je ne me rappelais pas des paroles. Donc j'ai été voir, non. Et en fait, à part le fait que c'est une BD qui est plutôt sympa, qui est liée à une chanteuse, et qui reprend le titre d'une des chansons, je trouve que c'est des œuvres qui sont très différentes à la fois du clip et du coup, je trouve ça dommage qu'on dise que c'est l'adaptation de la chanson, en fait. Parce que ça fonctionne bien tout seul. Hein. Il n'y a pas besoin de faire cette référence-là.
Ça saute pas aux yeux.
Non.
Mais ça serait un autre titre, ça saute pas aux yeux.
Bah ça fonctionnerait de la même manière. La BD elle est bonne, donc ça marche bien. Hein.
Ok.
Alors je veux pas critiquer le dessin, mais il est efficace. Il a rien d'exceptionnel, mais il fonctionne bien. Il est plutôt agréable. Les personnages ont ce côté un peu jeune teenage qui fonctionne bien. C'est plutôt destiné justement à des jeunes adultes, des jeunes ados. Mais ça marche bien. Il y a quelques clichés. Mais il y a plein de petites choses qui sont mises, comment dire, dans le fond, qui fonctionnent bien. La pauvreté, elle n'est pas mise complètement en avant. On sent que le père, par exemple, qui a son entreprise de déménageur, qui va justement se faire embêter par ce mafieux-là, il a du mal à joindre les deux bouts et puis il fait tout ce qu'il faut. Il y a une des copines de Lolo, elle vit dans la même chambre que son frère. Et ça, c'est des choses qui sont qui arrive à tout le monde, mais c'est juste en fond, c'est pas appuyé avec du pathos, c'est plutôt une BD qui est d'action justement, et ça marche bien.
Ce que moi j'en vois en feuilletant, le public a été ciblé dans cette BD. C'est vraiment une BD de d'ado. Enfin, je pense que ça cause aux ados. On voit le graphisme, ça semble pas puéril, pas lénifiant.
Non, puis il y a plein de thématiques. Ça parle de harcèlement scolaire, ça parle de plein de choses. Donc, ça marche bien.
Mmh. Ok. Ok, ok.
Bien, donc. That's all, folks.
Et oui, c'est. Alors, on va redonner vite fait les références, mais Porky annonce la fin de l'émission. Noblin, t'as la BD, je t'en prie. Mmh,
tout à fait. Donc, Girl on Fire de Alicia Keys par Weiner et Williams, également aux éditions Glénat.
Voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Alors, ça s'est pas bousculé sur le chat pour te souhaiter un bon anniversaire, Richard. Mais sache qu'ils l'ont au moins pensé chez
d'accord.
eux. D'accord. En allumant des bougies, je pense. On se retrouve la semaine prochaine pour les voix du scénarium. On se retrouve dans 15 jours pour
la case de Seb.
La case de Seb.
Ah oui. Bienvenue Seb.
Ouais, non, mais allez, on se quitte et n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent.
Eh ben, vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben, je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Rappelez vite! Venez par suite-moi ici!
Justement! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, Douce?